Sebastian for us to invite us today. So we will speak in French because even in French, as you understand, it's quite difficult for us to have a consensus on what we want to say. So in English, you could imagine. So we apologize for this, and we will try to explain you what we want to do.
Alors, je reprends donc la langue que je maîtrise un peu mieux pour expliquer donc avec ce texte, Observing from the outside, you feel part of the inside. Ce titre un petit peu ambivalent pour adresser pour
ça ne marche pas. Ok. Je croyais qu'il avait une capacité.
Non.
Il est very directionnel.
C'est exactement le concept. C'est qu'il est
directif. Bien, alors, je reprends. C'est bon pour cette fois pour les traducteurs, pardonnez-moi. Donc, je vais essayer. Ce titre, déjà, pour montrer la tension sur laquelle nous voulons travailler, c'est-à-dire l'observation de la Terre vue de l'extérieur, donc vue de l'espace, et ce sentiment d'appartenance à une humanité avec son destin. Donc c'est sur cette tension-là que nous voulons travailler. Alors, une petite citation, comme Isabelle, notre chaîne, m'a fait remarquer hier, citation d'Augustin Berg, « L'être de l'humain est géographique ». Isabelle m'a dit oui, Augustin Berg, on lui fait dire tout ce qui nous arrange. Ce que nous voulions lui faire dire ici, c'est cette tension à nouveau, c'est-à-dire ce besoin de localisation, cette existence de l'humanité qui n'est pas une abstraction, qui n'est pas une appartenance dans un monde très global, mais qui est extrêmement situé. Donc, notre recherche, Isabelle en a déjà parlé un petit peu, une recherche entre donc, des sciences sociales, un programme de recherche sur le lien entre l'espace et la société avec la mobilisation des sciences sociales, un partenariat qui finalement fait travailler ensemble des sociologues, des gestionnaires, des historiens des sciences et des ingénieurs, puisque ça n'est pas simplement une ouverture du CNES à des chercheurs, mais c'est vraiment aussi des travaux en coopération. Et ce que nous allons présenter aujourd'hui, ce sont au fond les éléments pour un atelier que nous voulons lancer en 2015 à l'occasion de la COP21 à Paris sur les liens entre spatial et climat. Pour dire les choses de manière un peu synthétique, ce que nous voulons traiter comme question aujourd'hui, c'est celle la prise en compte du fait qu'il y a eu historiquement des liens très étroits entre le spatial et l'environnement et le climat, à la fois sur des questions de représentation et d'ouverture de l'imaginaire, mais aussi, en deuxième niveau, sur des questions de cadrage du problème et construction de la connaissance. Nous voulons reprendre en compte le fait que pour le public, le grand public, aujourd'hui, la notion de le mot climat, la notion de climat, et on l'a vu hier, finalement, est devenue un peu emblématique de toutes les questions environnementales. On verra un petit peu plus tard que pour nous, il est parfois nécessaire, en tous les cas, quand on s'adresse aux capacités du spatial, de distinguer les problèmes. Enfin, autre question qui renvoie à notre titre, il est à peu près acquis que le climat est une question globale, est un problème qu'on ne voit que si on travaille sur une vision systémique. Les acteurs sociaux ne peuvent s'en saisir, à la fois cognitivement et pour pouvoir agir, qu'à un niveau local. D'où la citation de Berg sur le besoin de situation. Donc, du coup, notre question, celle que nous allons travailler, que nous voulons travailler dans cet atelier, c'est celle comment l'espace peut contribuer et qu'est-ce que la recherche en sciences sociales peut apporter pour comprendre un petit peu ce challenge. Alors, historiquement, donc, les liens entre espace et société, pour revenir un petit peu en arrière, on sait que, ça a été vu hier, les activités spatiales ont été développées plutôt dans des projets de défense et autour de la science. J'excepte un petit peu là, les activités météo qui sont embarquées de toute façon au service et de la défense et de la science. Et du coup, la gouvernance de ces activités était une gouvernance fortement nationale, ce qui du coup amenait la production d'informations, la production spatiale plutôt à destination de gens qui étaient des experts extrêmement pointus et qui élaboraient de la connaissance et des décisions pour aider des politiques et des décideurs politiques à faire voter des lois, choisir, faire des décisions. Donc, si on est dans une perspective, donc au démarrage, de politique pour la science, le grand public a plutôt été considéré comme un public à faire rêver, qu'il fallait éduquer par rapport au spatial et faire rêver. Et dans cette perspective-là, l'imagerie spatiale, et on l'a bien vu hier, a été mobilisée un petit peu comme machine à faire rêver, à produire un espace comme ça de rêve. Et à justifier, du coup, les investissements qui pouvaient être faits. Si on se place... je vais essayer de le faire. Pardon, c'était trop vite. Donc, si on se place dans la question, cette fois, de espace et environnement... le développement des questions environnementales a été là aussi historiquement très largement mêlé. Enfin, on pense à Hansen qui était au Goddard Institute, Hansen qui travaillait sur les couches, Michel en reparlera tout à l'heure, environnant de l'atmosphère de Vénus. C'est lui qui travaillait donc sur un modèle global. Et donc, c'est lui qui va être très impliqué. Si on pense à la montée, et là, il y a de nombreux travaux sur la montée du mouvement social environnemental, on voit bien que ça a été... Ça a déjà été beaucoup glosé, donc on ne va pas revenir là-dessus. Il y a une attribution à la circulation, à la diffusion des images de l'espace, celle qu'on a vue hier, le lever de Terre, la Terre de la Lune, la Terre comme un système global, la Terre fragile, la Terre comme fin de la Terre vue de l'extérieur comme fin de la frontière. Bon, on voit donc que tout cela, il y a une revue assez intéressante sur Global Warming in the Public Sphere, donc Coffee Morlow 2007, donc on vous y renvoie. Mais au fond, ce qui nous titille, c'est que l'environnement, c'est à la fois plusieurs niveaux de complexité. Quand on dit environnement, c'est quelque chose de très global, très polysémique. Et puis, il y a à la fois des choses culturelles, scientifiques, sociales, qui sont masquées derrière cette grande nomination d'environnement. Alors là, je passe la parole à Michel pour commenter l'imagerie qu'on associe à ça.
Oui, bon. Alors, je reprends les images, je reprends dans l'esprit de ce que Cathy vient de dire, l'utilisation des diverses représentations de l'espace et comment ça évolue dans le temps. Donc, on a bien vu ces deux images longuement hier, ces images de la Terre vues de l'extérieur par les missions Apollo de 1969 à 1972. Et on nous les a présentées tout hier comme... élément important de la prise de conscience de la question environnementale. Ici, je les présente un peu dans un sens opposé, c'est-à-dire c'est le dernier moment d'émerveillement. C'est la fin d'un monde, du monde du progrès infini. On est à l'extérieur de la Terre, on la voit, elle est très belle. Enfin, c'est Narcisse, on se regarde de l'extérieur et on se trouve très beau. Et puis on n'a pas trop peur. Même quand on est parti jusqu'à la Lune, comme ça apparaît dans la dernière image, on n'est pas loin, on va revenir, c'est beau. Mais on est près de la maison, on va revenir et on est content d'être là et puis on se sent tout puissant. Alors on fait encore, on a pris l'image de toutes ces représentations très belles de la Terre depuis l'espace pour montrer comment on aime se regarder et regarder la beauté de notre Terre. Puis ensuite, en 72, tu passes à l'image suivante, Voilà, là, on est sorti, c'est plus Narcisse, c'est Méduse. Et on est dans l'horreur. En 72, c'est la fin d'un monde. Hein, vous rappelez, en 72, c'est la fin des vols Apollo. C'est aussi c'est le début des grands mouvements d'inquiétude sur l'environnement. C'est la remise en cause du progrès infini. Hein, c'est les grands mouvements de contestation partout. C'était aussi le moment de la guerre du Vietnam. Et là, on a une représentation brutale qui arrive. C'est nos premières... Ce n'est pas en 72 qu'ont été prises ces images, c'est plus tard, mais les premières sondes qui quittent l'environnement proche du système Terre-Lune, c'est les sondes Pioneer en 72, puis les sondes Voyager. Et là, les deux images que vous voyez sont des images prises par les sondes Voyager en route vers Jupiter, la première. Donc on voit pour la première fois le système Terre-Lune. On voit la Terre et la Lune, là, c'est l'image de gauche qui sont ensemble, et elles paraissent quand même déjà loin. Hein. L'inquiétude arrive, c'est Méduse, c'est... On n'est plus chez Narcisse, on est dans la frayeur. Et puis la deuxième image, ce que vous voyez en rouge, c'est un phénomène optique, c'est un anneau de diffraction probablement du Soleil. Et puis un petit point, et le petit point, c'est la Terre. Alors là, on comprend plusieurs choses. C'est qu'elle est vraiment isolée, elle est totalement isolée, et on est prisonnier dessus. Et puis les rêves qu'avaient vendus les agences spatiales dont on a parlé hier, ces rêves de... sauver l'humanité en partant sur des objets, on voit que c'est complètement faux. Hein. C'est fini. On est prisonnier et l'objet, s'il lui arrive quelque chose, mais c'est qu'un petit point parmi des milliards, de milliards, de milliards. Et donc, c'est fini. Donc cette image, c'est une image de terreur qui arrive. Hein. C'est la fin du monde dominé. Voilà. Alors, à partir de là, une fois qu'on a pris conscience qu'on était dans un environnement hostile et qu'on ne maîtriserait plus, il va falloir travailler. Et on va sortir... Cette planche-là, elle est due au travail d'une jeune dame qui prépare sa thèse, qui va la présenter en décembre, Gemma Siras Claveras, que nous suivons tous les trois. C'est Isabelle qui la suit, c'est essentiellement, et puis on a proposé le sujet, sur l'interprétation des données de mesures dans l'espace. Alors, on a vu, on a beaucoup parlé de l'image, des représentations morphologiques, et Gemma va travailler sur le sens physique. Quand on va sortir de l'image, proprement dit, des représentations et de l'imaginaire, et qu'on va rentrer dans la connaissance construite et dans la connaissance physique de cet objet hyper fragile, hyper isolé qu'est la Terre. Alors, donc, on est passé du travail sur la représentation imaginaire à la donnée. Et la donnée physique, qu'on a tendance parfois... à utiliser comme une valeur absolue qui va rentrer dans notre connaissance, on se rend compte que ça, c'est faux. La donnée physique en elle-même, la donnée, la mesure, il va falloir la travailler, on va la construire. Alors, je ne sais pas comment on a organisé ça, c'est que premièrement, la donnée en elle-même, la donnée spatiale en elle-même, elle n'amène pas une vérité, elle est construite à partir d'autres informations, de représentations, de modèles locaux, puis de données extérieures, de données in situ qu'on va amener, puis d'autres modèles. On va rentrer cette donnée physique, cette mesure physique dans d'autres modèles pour lui donner du sens. Il va y avoir un échange entre la connaissance théorique et la donnée amenée par l'espace et les autres données. Et ainsi, ces données, ces mesures physiques vont devenir un objet. L'image était un objet en elle-même, mais la donnée, la mesure va devenir un objet en elle-même avec toute une histoire, hein, comme un objet. Il va y avoir des hiérarchies, ça va prendre son autonomie de pensée. On reste sur celle-là, on est sur le point. La première donnée, c'est dans la première phase encore de l'histoire de l'espace. Ce sont des experts qui travaillent sur les données. C'est la mesure physique qu'a fait l'instrument qui a été construit par un physicien. Et c'est ce qu'on appelle, ce que Gemma appelle le mode PI, le mode de l'investigateur principal. On a fait un outil parce qu'un physicien a proposé l'outil, et c'est ce physicien, j'en regarde un dans la salle, qui va utiliser l'outil pour lui-même. Et puis ensuite, on va aller au-delà, et on se rend compte qu'il va falloir qu'elle étende son domaine d'extension, et au-delà de la donnée physique instrumentale, on va passer à la donnée géophysique, c'est-à-dire la donnée liée à la Terre, qui a son sens proprement parlé pour la Terre. Et donc, la première donnée qui vient de l'instrument passe par des modèles et devient un objet qui représente des quantités qui sont plus traditionnelles de la connaissance terrestre. Dans le premier niveau, on avait des radiances, des mesures de distance, des objets comme ça. Dans le deuxième niveau, quand on l'a transformé, intégré dans un système de connaissances, on a des hauteurs de la mer, on a des niveaux de des bilans radiatifs du système terrestre, on a des contenus en gaz à effet de serre, des températures, des humidités. Alors, il faut que j'accélère. Bon. Donc, ces nouvels objets vont interagir. On a des usages scientifiques et on a des usages beaucoup plus généraux. Et c'est ces usages qui commencent à nous intéresser, comment le grand public va s'approprier ces données. Bon, on passe à la suivante. Alors, cette première représentation, celle-là, voilà. C'est justement, tout à l'heure, enfin, on a vu au début des images directement. Là, on voit déjà que la donnée rentre dans des systèmes de connaissances compliqués. À gauche, vous avez la Terre qui n'est plus représentée par une image. Elle est représentée par des grilles de calcul, par des modèles. On a de la connaissance théorique qui est dans ça. Donc, on va appréhender la Terre en tant que phénomène global. À droite, on voit aussi que ces données vont permettre de regarder des phénomènes locaux. On regarde des processus, on regarde comment les aérosols, les nuages vont interagir et interagir avec le rayonnement. Donc, on étudie la Terre comme objet. Et on passe à un troisième niveau de connaissance, un troisième niveau dans cette histoire de la donnée et de la représentation par ce qu'en font les hommes. On a vu Narcisse, on a vu Méduse. Passer la sidération de Méduse, il va falloir faire quelque chose, sortir de là, et on passe à Saint Thomas. C'est l'image suivante. Alors, une fois qu'on a vu qu'on avait peur, c'est comment on va calculer, comment on va se réapproprier les choses, comment on va montrer aux gens que ce qu'on mesure par les chiffres, ça a un sens. C'est Saint Thomas qui veut toucher lui-même. Et voilà le premier niveau de représentation qu'on a, dont on a aussi beaucoup parlé hier, c'est la hausse du niveau de la mer. Vous voyez, on est parti de l'image, on a fait du calcul, et puis là, maintenant, on a, sur une vingtaine d'années, la mesure du niveau de la mer. On voit cette mer qui monte de 3 mm par an, donc il y a changement climatique, la Terre se réchauffe et tout ça. Voilà. Donc voilà une magnifique...
On est, vous voyez, un peu impertinent dans notre manière de travailler. Vous voyez bien que ce que Michel a montré dans la représentation de la Terre calculée comme objet de calcul ou à travers les moyennes du niveau de la mer, on est dans des représentations qui construisent des vérités. Si Sylvie était là, elle dirait mais c'est des faits. Mais pour le grand public, ça n'a pas encore valeur de fait. C'est cette tension-là qui nous intéresse.
Ça n'a pas valeur de fait. Donc, on a dit, et c'est vrai, je vais rebondir là-dessus, on a dit, voilà, on vous montre le changement climatique. Vous dites aux gens, voilà, la mer monte de 3 mm par an. Et vous allez à la pointe du Raz, vous regardez la mer à la pointe du Raz, et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des grosses vagues de 3 ou 4 mètres, vous voyez des marées, vous avez des fluctuations dans les marées, à l'équinoxe, à pas l'équinoxe, vous voyez le niveau de la mer qui monte de 7, 8 mètres, vous voyez une dépression qui passe, la mer qui monte quand la dépression passe, et j'en passe, hein. Il y a 63 corrections pour savoir quelle est la hauteur de la mer à partir d'une mesure altimétrique. Donc là, on est face à une connaissance théorique, mais on voit qu'il y a un mur pour que cette connaissance puisse être prise par les publics, que ce soit des politiques ou le grand public, pour être comprise. Vous parlez de cette courbe à quelqu'un qui habite au Vanuatu, qui sait que dans 10 ans, il va quitter son île parce qu'elle va être inondée. Les 3 mm ne lui parlent pas beaucoup. Alors, on va chercher... il faut qu'on ait des... C'est ça notre axe de travail. Quelles vont être les étapes entre cette connaissance scientifique construite à partir des données dont je vous ai parlé jusqu'à l'appropriation locale? Alors, on va trouver des intermédiaires. Voilà déjà un premier intermédiaire. Comment cette information globale qu'on a, qui est vraiment dans la nature de la représentation par le satellite, qui est un objet global en lui-même, on va commencer à la régionaliser. Là, vous avez une représentation de... la hausse moyenne du niveau de la mer, mais régionalisée. Alors, ce n'est plus une hausse, parce que vous avez des endroits où c'est une hausse, des endroits où c'est une baisse. Déjà, quand on commence à parler du niveau de la mer sur une grille, à une résolution qui a quelque chose qui commence à devenir humain, 1000 km par 1000 km, quoi, déjà, on peut s'y promener avec un bateau, ben vous voyez qu'il y a des zones où la mer monte 10 fois plus, et d'autres endroits où elle baisse. Mais si elle monte 10 fois plus, c'est-à-dire déjà, on ne parle plus de 3 mm par an, ou de 3 cm en 10 ans, mais on parle de 30 cm en 10 ans. Et ça, Pour quelqu'un qui habite au milieu du Pacifique, 30 cm en 10 ans alors qu'il est sur un atoll, ça commence à parler. Surtout que lui, il comprend ce que c'est que la fluctuation. Et on a parlé beaucoup de la compréhension des probabilités. Bon, ça, c'est une chose, c'était fondamental. Mais la compréhension des fluctuations autour d'une moyenne, c'est aussi fondamental. Ce n'est pas de la probabilité, c'est presque déterministe, les fluctuations autour d'une moyenne. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Il va donner un autre sens à cette moyenne de 30 cm par an. Et à ce moment-là, l'habitant des Vanuatu, entre la hausse moyenne de 3 mm et ce qu'il vit, on va avoir une transition. C'est ça qui nous intéresse. Alors, on passe à l'image suivante, c'est toi qui parles.
Oui, donc on revient à notre sujet de départ, puisqu'on est au CNES, on est donc avec les acteurs du spatio qui se posent la question de qu'est-ce que le spatial peut faire par rapport à cette question climatique. Et donc, on regarde, donc on voit avec ce qui a été présenté que le CNES a contribuer donc à produire des connaissances sur l'environnement de manière générale. On a dit l'objet climat pour nous est un objet particulier, il est à la fois global. Hier, là aussi, quelqu'un a dit invisible et Sylvie Joussaume, en climatologue, a dit non, pas si invisible que ça, puisqu'effectivement, il y a des faits scientifiques qui sont des indices qui nous permettent de dire des choses. Oui, mais le régime du futur, c'est une hypothèse. Ce régime, ce basculement, turning point dont on nous parle toujours, c'est ça qui est invisible en fait et qu'on a du mal à, pour lequel on a du mal à faire le lien. Par ailleurs, à chaque fois qu'il y a des événements extrêmes et qu'on nous demande est-ce que c'est une preuve d'eux, Jean Jouzel en France apparaît à la télévision et dit oh là là, prudence. Bon, en même temps, le WMO a fait des petits films pour se projeter dans le futur de 2050. On trouve ça sur le site du WMO. Et tous ces petits films, en fait, c'est une collection d'événements extrêmes qui sont censés incarner le bulletin météo que serait le bulletin ou un bulletin radio télévisé, en l'occurrence, en 2050. Et on mobilise les scientifiques pour attester que ce qu'on présente là, justement, on le rend visible. Alors, par ailleurs, deuxième niveau de problématique, c'est qu'on nous dit que c'est lié aux activités anthropiques. La cause anthropique est avérée, là-dessus il y a consensus. Pour autant, c'est difficile pour, à l'échelle humaine de vraiment prendre les choses parce qu'on voit bien qu'en fait, contrairement à la question qui a été évoquée hier de l'ozone, où on avait une substitution possible sans remise en cause de l'ensemble de l'organisation sociale, c'est toute notre société. Toute l'organisation de notre société, les transports, l'économie, qui sont à remettre en cause. Là, la substitution, elle est plus compliquée à penser, à inventer, à saisir. Donc, l'espace cependant, peut contribuer déjà de manière significative au pilotage des choses, à la fois parce qu'on a des perspectives, l'espace, par définition, propose des visions globales, et un travail a été fait dans le cadre de coordination entre des agences et pour l'Europe repris par l'ESA pour le suivi de paramètres précis. Un petit peu comme pour la météo, on suit les précipitations, le vent, l'humidité, etc. Là, on a défini des paramètres qui sont des paramètres qui deviennent des indicateurs, des variables essentielles pour lesquelles on va essayer d'avoir un suivi. Et on a vu quand même que progressivement, les études qui ont été faites sur l'impact dans le grand public, que les moyennes du niveau de la mer ou bien la vision de la fonte des glaces au pôle, la diminution donc, de la calotte glaciaire, là aussi, ça avait un impact. Pour autant, l'espace ne peut pas tout seul répondre à ce problème parce qu'il a... Il est souvent combiné à d'autres. Il faut souvent le combiner donc à d'autres sources d'information. Et puis il a des limites en tant que tel. Alors, notre défi, c'est d'essayer de voir comment prendre en compte, si on parle d'échelle humaine et donc d'échelle sociale, comment prendre en compte la question climatique. Donc, on voit qu'on a une problématique qui est celle du global. On a vu hier les représentations de la Terre où il y, y avait à la fois une mobilisation qui se faisait sur des modalités différentes. Bon, la dernière en date, c'est la marche pour le climat du 21 septembre. Les initiatives comme celle du GIS Climat aujourd'hui et tout ce qu'il y a eu sur la vulnérabilité et sur l'incertitude montrent en fait les travaux importants. Les scientifiques du Cordex sont engagés dans des programmes d'expérimentation à l'échelle régionale. Et là, on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement de descendre l'information, faire du downscaling pour avoir du niveau local, mais qu'il faut reconfigurer les problématiques quand on les croise avec les questions que se posent les décideurs, les questions que se posent les utilisateurs. Et enfin, donc, une autre des perspectives, c'est de considérer qu'il y a un enjeu de rendre les acteurs capables de vivre, de penser, d'agir, de contrôler. Et un des enjeux de tout ce qui est fait en Europe, en tous les cas, avec le programme Copernicus, mais qu'on voit aussi dans d'autres pays avec des programmes d'observation de la Terre, c'est effectivement développer des services climatiques. Et les activités spatiales ont déjà été embarquées en quelque sorte dans cette... Nous proposons, au fond, nous posons la question de dire, bon, est-ce qu'on peut attaquer la question du climat à une échelle locale, sachant que, bon, il y a des controverses sur la manière dont cette question a été construite de manière globale. Bon, Anat Singh, dans son livre Friction, dit, on a effacé dans la construction globale, c'est une histoire historique. Si on regarde le climat aujourd'hui que comme un problème global, ça n'est pas que pour des raisons physique, ça n'est pas qu'une justification liée à la construction physique de l'objet, c'est aussi une histoire politique du contexte historique et social dans laquelle la question climatique s'est développée. Et d'ailleurs, regardons la question de la biodiversité. Bon, mais là, les gens disent, bah, oui, mais la biodiversité, c'est pas la même question scientifiquement. Bon, il faut regarder ce truc-là. On va pas être dans la démonstration. Par ailleurs, on a aussi des discussions sur la pertinence, je vous montre l'ensemble des tensions. Discussion sur la pertinence quand on veut communiquer des choses à l'échelle locale. On a tendance parfois à faire des projections de manière peut-être un peu trop rapide. Et on a mis Aquila Effect. Vous vous souvenez peut-être de la manière dont les scientifiques ont été mobilisés pour communiquer sur les tremblements de terre de l'Aquila et la manière dont ils ont été condamnés ensuite, alors que tous disent bah oui, mais on avait parlé d'évoquer des probabilités, on avait essayé d'être prudent, mais ça n'a pas forcément été entendu quand ils sont embarqués dans la communication. Donc on voit bien que finalement, si on reste à un niveau global, si on reste dans le registre scientifique, on ne prend pas ce risque. Mais voilà, il y a une tension là. Ensuite, la notion de climat, il nous semble nécessaire finalement de la revisiter à nouveau dans sa polysémie et peut-être en allant chercher ce que des sociologues, des anthropologues, des géographes nous disent autour de cette vision, que peut-être on est resté dans une science et dans une approche qui est trop, dominée par une perspective occidentale et qu'il faut la réarticuler à des visions où la notion de milieu va pouvoir tenir compte du fait que chacun d'entre nous est pris dans différents milieux. Les milieux liés à ses préoccupations, c'est l'exemple de la vigneronne du Bordelais fait du vin biologique, elle a beau être pas très loin d'une côte où il y a des problématiques d'érosion, pas très loin d'une usine nucléaire où il y a des problématiques aussi de risque nucléaire, son souci c'est d'abord le risque lié au fait que ses voisins utilisent des pesticides et qu'elle récupère tous les escargots qui viennent manger sa vigne. Donc la hiérarchie des risques peut dépendre des préoccupations. Donc ça n'est pas simplement que de la culture, c'est aussi des préoccupations à un moment donné. Enfin, il y a une suggestion qui peut-être peut nous aider à penser tout ça, qui est de sortir d'une vision comment mieux communiquer, comment mieux répondre à la demande, pour passer, encore une fois, à une vision où il s'agit de proposer, donc, d'encapaciter les gens, c'est de développer la capacité à agir et à faire, à vivre avec des situations de risques multiples et de plusieurs niveaux de risque. Alors, il y a plusieurs expériences. Je pense qu'il va falloir qu'on accélère, non ? Oui, 5-10 minutes, bon. Ça devrait être bon, alors. Donc, on a, y a quelques expérimentations qui peuvent nous aider. Peut-être je vais passer. Bon, quelques expérimentations qui peuvent nous aider à penser ces choses-là. C'est-à-dire qu'on peut aider à améliorer la connaissance dans ces dialogues qui sont connus entre des gens qui observent des choses localement et puis des gens qui, peut-être même avec des choses qui n'ont rien à voir, par exemple le niveau de la mer par rapport à la montagne. Mais le dialogue peut aider des gens à situer ce qu'ils observent localement dans une connaissance plus globale. On peut, sur la biodiversité, on voit bien qu'il y a eu le WWF essaye de faire se rencontrer des faits qui sont cumulés par des démarches de sciences participatives, en quelque sorte, avec des visions qui sont des visions construites à partir du satellite. On a parfois de la connaissance où il faut combiner ces deux ressources entre... par exemple, la vision de la mer, où on va observer du plancton, des densités, mais c'est le pêcheur seulement qui saura faire le lien entre, ou l'agriculteur, si on prend l'agriculture, le lien entre ces remarques-là et puis des faits qu'il connaît, lui, de par sa pratique de pêcheur. C'est-à-dire qu'il saura qu'il faut associer cette présence de plancton avec, ou pas, avec de la disparition ou pas de certaines espèces de poissons. On a aussi une base de données qui a été développée après le tremblement de terre de 2010 en Haïti, qui est une base de données participative dans laquelle, alors je montre très vite des types d'exemples, on a en fait une construction collective d'informations dans laquelle la base... Ah, pardon. Ça, c'est la base de données, qui est une base de données co-construite avec des acteurs locaux, pour lesquels on a à la fois des images, une construction d'une mosaïque de référence. Donc, on a en bas à gauche le type d'image qu'on a et le traitement mosaïque global. Et, par exemple, ça permet de travailler sur des risques de ruissellement. Donc, l'ensemble de ces exemples nous permettent de dire, bon, on a peut-être, nous, avoir un petit peu des questions qui se posent sur en quoi le spatial peut aider à faire évoluer, à prendre autrement la question de la représentation de la connaissance sur le niveau local, en quoi on peut articuler, ça peut aider à articuler, comme dans une base de données, différents registres de connaissances, de perceptions, d'expériences. On se dit, deuxième registre, et c'est pour ça que c'est intéressant de mêler les sciences sociales, et qu'il nous faut peut-être explorer mieux les questions de la polysémie de la notion de ce qu'est l'environnement, entre la vision du monde comme donné, la vision du monde comme construit par les acteurs organisant le monde dans lequel ils peuvent vivre, l'opposition aussi plus orientale sous l'influence japonaise et chinoise et retravaillée par Augustin Berk, de la structure du monde comme structure existentielle et le monde comme à la fois spécificité locale, à la fois du point de vue de la géographie, mais aussi du point de vue de la culture et des habitus, presque, on pourrait dire. Enfin, sur le plan de la représentation, il nous semble aussi que là, il y a peut-être à réexplorer la construction des images en opposant la perspective renaissance, donc la focalisation sur un point, et puis ces visions d'un monde flottant ou dans lesquelles, comme on a une intégration un peu syncrétique avec Okuzai ou Hiroshige, où on a cette fois plusieurs points de fuite à l'intérieur d'une même image. Ah, pardon. Voilà. Donc en haut, on a la vision, la perspective renaissance d'Alberti, et puis en bas, donc la vague de Kuzai, où on a au premier plan les barques des pêcheurs et au loin le mont Fuji. Et à gauche, un déplacement qui est suggéré par le fait qu'au fond, on voit le paysage et il y a plusieurs points de fuite qui sont construits à l'intérieur de la même image. Bon, alors notre conclusion, c'est reprendre cette idée qu'il n'est pas de lieu sans être. Et donc, finalement, la planète désincarnée, non habitée, non humanisée ne nous intéresse finalement pas tant que ça. L'objet qui nous passionne, c'est celle de l'étude de l'apport du spatial par rapport à une planète habitée et donc située pour des acteurs.